Donc, Philippe nous a dit en début d'émission qu'il était heureux de commencer avec Dinana Mouskouri.
On l'a pris au mot.
On l'a pris au mot. On en a fait jouer encore. Puis, je pense que je préfère du Air Supply.
Mais là, c'est Nana Mouskouri.
Mais là, c'est extraordinaire.
Abba.
C'est Nana qui chante Abba. Abba.
OK, c'est pas Abba qui a repris un hit de Nana.
Non, on a l'original.
Je suis tout mêlé. Philippe, ta palette de goûts musicaux est vraiment très large.
Ce matin, j'étais en train de faire la liste des pièces pour le Vendredi Groovy et il y avait des pièces de Nana Mouskouri. Puis quand j'entends ça, j'ai dit, mon Dieu, c'est l'amalgame parfait pour Philippe Quentin.
Tout à fait,
Nana
tout à fait.
Ben,
merci
Abba.
Infiniment, Catherine. C'est un magnifique cadeau du vendredi. Tu m'envoies très, très heureux.
Bon, Philippe, on va parler, bien évidemment.
Je vais la mettre sur ma liste Spotify.
T'es sur Spotify en plus.
Bien sûr.
On n'y est plus.
Non, Dieu. Pas pire pour un boomer, hein?
Pas pire pour un boomer. T'es pas un boomer, toi?
Ben oui, juste à la fin. Là.
Ah ouais, oui? Ouais, ouais, OK, ouais. Bon. Dans mon cœur, t'es toujours le jeune Tintin. OK, on va parler de la LNH, mais avant ça, on va parler d'un vrai sport. Medina Spirit va courir au Preakness.
Ben oui, ce fameux cheval qui a gagné le Kentucky Derby et qui, après, a eu un test de dopage positif, ce qui a fait que son entraîneur, Bob Baffert, est allé se plaindre sur Fox News en disant, grosso modo, que c'était la culture woke qui avait condamné.
J'ai dopé mon cheval, c'est la faute de la gauche.
Et puis, finalement, il a dit, ah ouais, à bien penser, c'est peut-être une petite pommade que je lui ai mise la semaine dernière qui était responsable du test, mais je vais faire attention avant la prochaine course, là, on lui donnera pas cette pommade-là. Alors, yeah.
Le cheval a le même pharmacien que Ben Johnson.
Ouais, c'est ça. Alors, sur la foi de cet engagement formel de M. Baffert, Medina Spirit va pouvoir courir au Preakness. Mais ce ne sera pas nécessairement le cheval favori. Il y a beaucoup, beaucoup d'experts qui aiment un cheval, le numéro 5. C'est vraiment un joli nom. Il s'appelle Midnight Bourbon, le Bourbon de minuit.
Philippe, comment ils choisissent le nom de ces chevaux-là? Des noms qui sont toujours disjonctés.
Ben, y en a, c'est carrément l'imagination des propriétaires. Tu achètes le cheval, tu peux lui donner son nom. Mais il y en a d'autres aussi qui ont des noms, des dérivés des noms de leurs géniteurs.
T'es sûr qu'ils mettent pas plein de mots dans un chapeau puis qu'ils mettent deux mots ensemble?
Peut-être qu'il y en a qui font ça aussi, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup aussi qui c'est lié à soit des philosophies personnelles ou à des aventures qui leur sont arrivées. Il y a un cheval, par exemple, demain, Preakness, qui s'appelle Risk Taking, prendre des risques. Alors, j'imagine que le propriétaire peut-être comme ça qu'a fait sa fortune en bourse, je ne sais pas, mais ça ressemble à ça.
OK, quarantaine au Canada, hein, on sait que c'est plus strict qu'aux États-Unis, puis ça cause des maux de tête à la LNH.
Oui, tout à fait. Puis là, la Ligue nationale dit aux autorités canadiennes, au gouvernement canadien, écoutez, c'est sûr et certain là, qu'il y aura une équipe canadienne en demi-finale de la Coupe Stanley, parce que compte tenu de cette année de pandémie, là, l'équipe qui va sortir gagnante de la division Nord, là, on le sait, il y a deux séries, Canadien contre Toronto, Winnipeg contre Edmonton, et on va couronner un gagnant après deux rondes. Bien, cette équipe-là sera en demi-finale de la Coupe Stanley, forcément contre une équipe américaine, puisque les trois autres divisions sont aux États-Unis. Alors là, dans le moment, comment on ferait pour tenir la série demi-finale si la frontière n'est pas ouverte? Impossible pour l'équipe américaine de venir au Canada ou pour l'équipe canadienne de rentrer au Canada après être allée disputer des matchs aux États-Unis. Alors là, la Ligue nationale dit, écoutez, si c'est ça, puis si la frontière n'est toujours pas ouverte, bien, l'équipe canadienne va être obligée de s'installer dans une ville américaine. Il y a déjà deux villes là, qui ont été contactés, on ne sait pas lesquels, pour des villes dans lesquelles évoluent des équipes qui sont éliminées à l'heure actuelle, qui pourraient accueillir potentiellement une équipe canadienne. Sauf que la Ligue nationale de hockey dit que ses entretiens avec les autorités canadiennes vont bien, elles sont assez confiantes d'en venir à une solution, parce qu'il ne faut pas oublier que ces équipes-là voyagent en jet privé, en avion oui. privé, ils arrivent, bon, il y aura un hôtel, une bulle et tout, alors on va voir ce qui va arriver.
On se comprend, mais la bulle n'est pas aussi étanche que l'année passée pendant les séries. Si tu es dans ta famille, puis là, ta famille a des contact à l'extérieur.
Oui. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que quand les équipes viennent au Canada, que la bulle soit très étanche, c'est-à-dire aucun contact avec le public, des gens testés aux hôtels et tout. Je ne sais pas si on va pouvoir y arriver.
Philippe, avec la vaccination qui est rendue dans les groupes d'âge, disons, susceptibles d'inclure les joueurs du Canadien... Les gars vont être vaccinés bientôt.
Oui, ben, y en a déjà qui ont été vaccinés et puis c'est déjà commencé. Puis là, oui, effectivement, dans le moment, c'est ouvert pour les 18 ans et plus. Alors, forcément, la vaccination va bien. Puis là, c'est tout ce problème aussi, Patrick, avec ce qui se passe aux États-Unis. Parce que là, aux États-Unis, on est en train d'ouvrir en grand. Là. On l'a vu hier, hein, on a appris que les Américains qui ont reçu les deux doses de vaccin, s'il y a un Pfizer ou un Moderna, puis bon, les deux semaines après le dernier vaccin sont complétés. plus besoin de porter de masque. Alors là, les équipes de baseball, notamment aux États-Unis, mais là, c'est plus facile, hein, le baseball, c'est des stades en plein air, disent, ben nous, on rouvre nos stades. Alors là, ça commence. Les Twins du Minnesota vont augmenter leur capacité à 60 % pour les prochains matchs, puis après ça, en juin, ça va être à 80 % puis à partir du mois de juillet, on accueille tout le monde. C'est la même chose au c'est la même chose à Philadelphie, c'est la même chose à Milwaukee. Déjà en Arizona, les Braves d'Atlanta, les Rangers du Texas, on joue devant des gradins potentiellement pleins si on vend tous les billets. Alors tu vois, là, il va vraiment avoir deux réalités très différentes. D'un côté, les équipes américaines, au baseball par exemple, qui peuvent jouer devant des stades pleins. Les Blue Jays de Toronto, par contre, non, continuent de jouer. Là, ils jouent à leur site de camp d'entraînement en Floride, puis ils vont bientôt déménager à Buffalo. Mais pas question qu'ils jouent à Toronto.
Mais Philippe, j'ai commencé l'émission avec une entrevue avec Dr Gaston Desserre, puis ce qu'il nous expliquait, chiffre à l'appui, c'est que les Américains sont en avance sur la vaccination, à tout le moins de la population adulte. Donc ouais, ça fait une grande différence.
Ça fait une énorme différence, puis je pense que pour le hockey, là, il faut réaliser que ça va être difficile. Il faut se croiser les doigts pour la prochaine saison au Canada.
As-tu vu la photo de Shea Weber se faisant vacciner?
Oui, je l'ai vu. Ouais,
as-tu
ouais,
vu
ouais.
ce qu'il y avait dans sa main?
Ben oui, il était comme blessé. Ouais, hein? Il y avait un pouce qui avait l'air mal en point.
On peut dire maintenant, tu sais, la formule consacrée, c'est blessé au haut du corps. Je pense qu'il est blessé au bout du bras.
Oui, c'est ça. Ça ressemblait pas mal à ça.